Une émission présentée par Gérald.
Oui, Laurence, présentée par Laurence et par toi.
Et par moi.
Et par Gérald et par Laurence, voilà. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 11 novembre.
11 novembre.
Voilà, et nous sommes ici malgré les poilus que nous fêtons aujourd'hui. Voilà. Nous allons parler d'ailleurs de choses fort intéressantes, comme à chaque émission évidemment. Nous avons par exemple au programme aujourd'hui, ce soir, on va avoir président de l'association Face à Face. Mmh. Et après, nous aurons avec nous la CIMAD, Sébastien Charles de la CIMAD, que nous connaissons déjà.
Pas de poilu alors?
Non, il n'y a pas de poilu. Enfin, si, Boris peut-être... quand même, en régie, qui est poilu. Il est déjà barbu. Puis Bernard qui est aussi... Alors, Bernard et Boris en régie, n'est-ce pas? Maintenant, Boris qui a pris du galon, comme on l'a dit, mais il n'a pas le droit encore au fauteuil du chef, t'as pu remarquer.
Si, la dernière fois.
La dernière fois, mais pas cette fois-ci. Je pense qu'il y a eu quelque chose entre eux, Bernard.
Il a pas
trop aimé, ouais, je pense.
Je le case maintenant, j'en profite, 11 novembre, c'est l'anniversaire de Bambi.
Ah oui.
Marie-Pierre Pruvot.
Oui.
Qui fête ses...
je sais pas, mais elle est éternellement jeune.
On le dit, on balance.
Ouais.
On s'en fout. Moi, elle le cache pas.
Elle le cache pas.
Elle le cache pas. 80 ans.
Ouais. Et Bambi,
c'est énorme.
Bambi, nous l'embrassons. Voilà.
Voilà, on lui fait des grosses
bisous. Certainement pas, mais nous l'embrassons.
On l'embrasse quand même.
Voilà, ouais, tout à fait.
Elle mange pas de pain.
On l'a eu avec nous à l'émission.
On embrasse tous ceux qui la connaissent.
Voilà, exactement. Alors, nous sommes donc en ligne avec peut-être. Avec le
Sûrement.
Festival Face à Face, enfin pas tout le festival,
mais
une partie du festival, donc normalement avec Martial Dumas.
Oui, bonsoir, c'est Martial à l'appareil.
Alors Martial, tu es président, je me permets de te tutoyer, nous d'office, on se donne du tu. Tu es président de l'association Face à Face. Jusque-là, j'ai juste, on se trompe pas.
C'est juste pour l'instant.
Voilà. Je ne sais pas si tu es accompagné de quelqu'un, éventuellement Olivier Bachelard devait être avec toi, mais c'était pas sûr.
Eh ben, c'est sûr, il est avec moi.
Il est aussi avec toi. Bon, donc Martial Dumas, le président de l'association Face à Face, et Olivier Bachelard du comité de sélection des films du festival Face à Face. Donc, est-il besoin de présenter le festival Face à Face, Laurence? Oui, quand même, c'est un festival de cinéma, un festival LGBT. Et cette année, c'est la 11e fois consécutive que à Saint-Étienne, il faut dire c'est à Saint-Étienne, va se tenir le festival Face à Face. Donc, en fait, Face à Face est une association, entre parenthèses, qui ne s'occupe pas exclusivement d'ailleurs du festival, mais qui a des activités, des événements un peu toute l'année. C'est une des principales associations, je crois, même LGBT de la région stéphanoise. Est-ce que tu peux me confirmer?
Alors, je ne serais pas aussi présomptueux et je ne dirais pas que... On est forcément la principale association LGBT de Saint-Étienne, mais c'est vrai qu'elle existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et effectivement, on a ce que j'appelle deux baselines sur l'association Face à Face, à savoir donc d'une part le festival, bien sûr, et également Ensemble contre l'homophobie, qui est une accroche à laquelle on tient, et on propose tout au long de l'année des séances, soit au cinéma Le Méliès, soit décentralisées, même dans les entreprises, pour parler de cas aussi d'homophobie à travers des films.
Et donc, le grand événement que vous préparez tout au long de l'année, c'est ce festival, le festival Face à Face, donc qui va se tenir, qui se tient chaque année depuis... Là, c'est la 11e année, je disais, la 11e année consécutive.
Nouvelle décennie.
Exactement, vous attaquez une nouvelle décennie, et donc c'est à chaque fois au mois de novembre, fin novembre, systématiquement.
Oui.
Donc le festival Face à Face, on l'a dit, c'est un festival de cinéma, mais pas que, parce qu'il y a aussi une part qui est faite au spectacle vivant.
On essaie dans la mesure du possible, oui, on essaie, effectivement.
On peut dire que le festival Face à Face, bon, nous, on est contents en Rhône-Alpes parce que finalement, on a trois festivals de cinéma.
On est bien
dans,
servi. Ouais.
Voilà, dans le vôtre. Est-ce que, une question qu'on pose souvent, mais c'est important parce que les soutiens, c'est un peu, et l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Est-ce que vous bénéficiez de soutien? Et je pense à la ville de Saint-Étienne, par exemple.
Alors, c'est vrai que de ce côté-là, je dirais que malheureusement, on est comme tous les festivals. Et tous les événements culturels, la plupart des événements culturels en France, et pas seulement LGBT, à savoir effectivement qu'on a le soutien pour l'instant d'institutionnels, tels la ville de Saint-Étienne. Mais il faut savoir effectivement que de nombreux festivals de musique ou de cinéma ont déjà fermé leurs portes depuis un an, parce que effectivement les soutiens deviennent de plus en plus légers, voire certaines fois disparaissent complètement d'établissements institutionnels. Donc on croise les doigts et on se bat aussi pour que le festival tienne.
Pour la pérennité du festival.
Oui.
Effectivement. Donc, le festival offre un panorama large, je pense, sur l'actualité cinématographique, on dira, que ce soit en provenance d'Europe ou d'autres continents. Donc, vous présentez à votre public un panel de films, je dirais, d'œuvres cinématographiques sur la thématique, dont la thématique doit être principalement LGBT, je dirais, si je ne me trompe pas. Hein, on est d'accord.
Oui.
Sur quels critères vous sélectionnez vos films, généralement, quand vous décidez, parce que je suppose que votre équipe de sélection, de comité de sélection, visionne des dizaines et des dizaines d'œuvres, et à un moment donné vient les critères de sélection. Est-ce que vous avez des critères? Comment vous sélectionnez vos films? Voilà.
Alors je prends le relais de de Martial sur ce point-là. Alors sur les courts métrages, en fait, on en a vu quasiment 350 cette année. Voilà, on a pas mal cherché. C'est-à-dire, on a à la fois cherché du côté du Festival de Clermont-Ferrand, forcément, qui est le plus gros en France, mais on en a reçu aussi une 90-100 globalement sur une plateforme, plus certains par mail également. Et on a réussi à peu près à tout voir. On a un comité de sélection après qui s'est réuni. Et j'allais dire, on a à la fois marché au coup de cœur, j'allais dire forcément, mais on avait aussi des soucis d'équilibre également entre les films dans les trois programmes qu'on propose finalement le samedi 21 à partir de 22h. On a trois programmes d'une heure 20 à peu près. Il nous fallait un équilibre entre à la fois différents sujets. Ça peut être en effet lié à l'homosexualité, mais aussi éventuellement plus généralement au genre, à la différence et à son acceptation. Et également un souci d'équilibre pour nous en tant qu'association LGBT entre les films gays, les films lesbiens, les films bi, la question de l'homoparentalité par exemple, les films trans. Voilà, on est sur des recherches d'équilibre également aussi entre comédie et films plus dramatiques. On peut pas évidemment convier le public à passer 4 heures avec nous samedi soir et avoir uniquement des films dramatiques. Donc bien sûr, on a des dessins animés, on a des films plus légers, on a une comédie musicale avec réalisée par Benjamin Biolay. Voilà, on a des films très divers. Très divers. Et côté long métrage, c'est un petit peu, j'allais dire, la même logique, mais d'équilibre. Mais en même temps, on a vraiment voulu être à la fois sur la possibilité d'avoir des rencontres avec des Skype. On aura une équipe de deux réalisateurs brésiliens le dimanche après-midi qui feront un Skype en direct avec le public pour le film Béramar qui sort en février, je crois. On a voulu axer ça à la fois sur la rencontre, donc le scénariste aussi du film Stand, qui est un film français sur les conséquences des lois de Poutine, sur la libération des actes homophobes, viendra et fera aussi partie du jury du court-métrage le soir même, le samedi. Et on a voulu en même temps avoir des films vraiment de qualité, c'est-à-dire qu'on est vraiment allé les chercher, là, les films, y compris auprès de non seulement les distributeurs français, mais aussi à l'étranger, auprès des vendeurs internationaux, que ça soit au travers du marché de Cannes ou de celui de Berlin principalement.
Oui, parce que comme je le disais, les œuvres sont en provenance de nombreux continents en fait. Il n'y a pas uniquement du cinéma européen, français ou européen, mais vous avez donc tu parlais Olivier donc de films brésiliens.
Voilà. On a un argentin qui est le film de clôture, Mariposa. On a un film indien aussi le samedi après-midi à 16h qui s'appelle Margarita with a Stroke, qui est dans le cadre d'un mécénat avec en aparté et qui est vraiment le feel good movie du festival, qui est à la fois en indie et en anglais. Voilà, on a des choses qui viennent de Belgique aussi, des États-Unis, d'Italie, voilà.
Ouais. Et donc c'est tous les œuvres, enfin les films présentés au festival, donc beaucoup ne pourront être vus qu'à Saint-Etienne finalement, puisque tous ne vont pas faire l'objet d'une diffusion en France.
Alors à la fois on a des inédits comme en effet Vierge sous serment de Dieu Corps Burundi qui ne sont
qui n'ont pas été diffusés à Saint-Étienne, qui sont sortis en France, hein, mais de manière assez confidentielle. Et puis on a aussi en effet une première française, qui est le film Those People à 18h le samedi 21, qui est un film qui se passe dans le milieu de la bourgeoisie new-yorkaise et qui est vraiment un coup de cœur pour nous. Et après on a en effet des inédits qui n'ont pas encore de distributeur en France et qui peut-être n'en auront jamais. C'est le cas de Mariposa ou du documentaire Before the Last Curtain Falls. Voilà, plus deux avant-premières, Tangerine en ouverture qui est un film très péchu, et puis Béramar dont je parlais tout à l'heure, le film brésilien.
D'accord, donc on va dire que le festival de Saint-Étienne, Face à Face, ne se décline pas autour d'une thématique, mais vous êtes un petit peu obligé de faire, je dirais, entre guillemets, avec la production du moment. Et est-ce que vous pouvez, par exemple, déterminer qu'il y a des tendances au niveau cinéma? Par exemple, est-ce que on peut dire que la représentation, la visibilité trans est plus prégnante maintenant? On voit plus de productions sur le transgenre qu'auparavant. Est-ce que vous avez plus de choix dans ce domaine-là, par exemple? Est-ce que vous pouvez sentir comme ça qu'il y a des, je dirais pas des modes, mais des thèmes qui sont plus souvent traités que d'autres selon les années?
C'est Marcel qui reprend la parole.
D'accord.
Oui, il me semble que effectivement la question trans est plus mise en valeur dans les films qu'on a pu voir, aussi bien dans les courts-métrages que dans les longs-métrages. Dans les longs-métrages, donc on parlait de Tangerine qui fait l'inauguration, qui est un film que tout le monde attend avec impatience. Il y avait également un film qu'on a vu cet été qui s'appelle Une équipe de rêve, un documentaire qui traite d'une équipe de foot au demeurant très mauvaise et qui s'avère sous le coaching d'un pro néerlandais, une équipe redoutable, et ils essaient de se qualifier pour la Coupe du Monde, et dans l'équipe il y a un personnage transgenre qui se situe dans les îles Fidji, je crois, j'ai un trou de mémoire, les îles Samoa dans le Pacifique, et dans ce film on a pu voir effectivement que les personnes transsexuelles étaient vues de manière complètement différente qu'on les voit dans l'Occident, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement plus intégrées, acceptées, je dirais même que la question de l'acceptation ne se pose quasiment pas, tant ça fait presque partie de la vie courante, sans aucun problème de quelque manière que ce soit, quoi.
D'accord.
Alors, sachant que chaque année, on a un documentaire, c'est vrai qu'on n'a pas retenu celui-là, mais Before the Last Curtain Falls, qui est un film flamand produit par l'Allemagne, a quand même un certain nombre de personnages transsexuels et gays travestis également.
D'accord. En ce qui concerne donc les œuvres en elles-mêmes, vous l'avez signalé, des projections sont proposées aussi, mais avec des débats, des rencontres, des conférences, etc., si je ne me trompe pas.
Oui.
Ce qui permet, je suppose, une certaine interactivité que vous recherchez avec le public aussi, que ce soit seulement un public passif. Alors, au total, combien de films vont être montrés au festival?
Alors, sur le... on va dire le lieu même du festival, à savoir le Méliès Saint-François, nous en aurons 9, plus un à Jean Jaurès, plus un autre à la Cinémathèque, c'est notre film classique. Et en avant-première du festival à Rouen, vendredi prochain, on repasse la belle saison de Catherine Corsini, que l'on avait programmée dans une séance of the Rainbow au Méliès cet été. Et on est content de le proposer également au public rouennais, puisqu'il n'est pas sorti à Rouen. Donc en tout, ça nous fait, si je ne m'abuse, 11 longs-métrages et 17 courts-métrages.
D'accord. Alors c'est vrai que vous parlez de Rouen, mais vous avez, j'ai vu que vous aviez l'habitude chaque année pour le festival d'organiser des séances décentralisées, donc je dirais en dehors de Saint-Étienne, dans la région stéphanoise ou même un peu plus au-delà. Oui. Donc c'est pour ça que vous évoquiez cette année Rouen, la belle saison. Ça sera l'occasion, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ceux et celles d'aller le voir. Hein, je crois que Laurence, toi, t'adores ce film.
Ah oui, oui. Mais je ne suis pas la seule. Il a eu un succès en salle et un beau succès.
Mérite, bien.
Oui, bien sûr.
Ouais. Alors, aussi, tout à l'heure, l'un d'entre vous, je ne sais plus lequel, évoquait le court-métrage. Donc la particularité aussi des festivals, c'est qu'il y a une nuit du court-métrage. On est d'accord? Et je crois savoir, enfin du moins d'après ce que j'ai lu sur votre site, que le public peut voter
pour les longs et pour les courts. Il n'y a pas de problème.
Ah, pour les longs métrages aussi?
Ah, tout à fait.
Ah, d'accord. Ah oui, donc il y a carrément le public
ah,
vote.
Ah, donc le palmarès est donné, il y a un jury, mais c'est aussi les spectateurs qui votent.
Voilà, il y a un jury pour la nuit du court-métrage.
D'accord.
Et le public vote pour le court-métrage et pour le long-métrage.
Alors ça, c'est une idée intéressante aussi, la nuit du court. Cette année, alors les courts que vous présentez sont plutôt des documentaires ou des films, enfin ça dépend des années là aussi, des sélections que vous avez pu faire. Cette année, il y aura du documentaire, de la fiction.
Alors c'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on essaye le plus possible que tous les genres, tous les sujets soient représentés. C'est vrai que cette année, on n'a pas de documentaire dans le court-métrage. Il y en avait un magnifique l'an passé, du Québécois Jonathan Lemieux. Cette année, on en a vu un absolument magnifique qui s'appelle Victory Day, qui est un film russe, qui est un peu long, qui dure 30 minutes, qui est donc un documentaire sur trois couples homo et lesbiens à Moscou. Et c'est quelque chose d'absolument dramatique, on peut le dire, et on s'est beaucoup posé la question comment l'inclure dans cette soirée, d'une part par sa longueur, et d'autre part, c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, on ne veut pas forcément qu'on traite que de sujets difficiles, et on n'est pas sûr que le public soit aussi là pour ça, pour voir une demi-heure de film, même si le film est passionnant, traitant d'un sujet aussi grave, et d'une matière documentaire, donc la réalité, quoi, et pas du cinéma en tant que tel. Donc à part ça, on a effectivement des films, on a deux films d'animation, on a des films dramatiques, on a des films comiques, on a des comédies dramatiques, on a une comédie musicale également, on a des films expérimentaux.
Ça va de 3 minutes à 30 minutes pour les deux plus longs, sachant qu'en effet avec 3 programmes de 1h20, avoir plus de 2 films d'une demi-heure, c'était problématique, ce qui fait qu'en effet le documentaire dont on parlait tout à l'heure n'a pas finalement été retenu.
Mais de manière générale, je pense qu'on a fait du bon boulot et que la sélection est bonne et qu'elle est représentative de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets, de beaucoup de façons de faire du cinéma, et que chacun s'y retrouvera, et j'espère prendra vraiment son pied à voir tous ces films.
D'accord. Alors, on rappelle que c'est du 19 au 22 novembre. Je voudrais juste terminer avec deux petites informations concernant le festival. Alors, comme je le disais, vous organisez chaque année du spectacle vivant aussi, dans le cadre du festival. Et cette année, c'est donc Océane Rosemary qui sera là, je crois, hein, avec son nouveau spectacle « Chaton violent ».
Oui.
Voilà, Océane Rosemary, célèbre pour son... Qu'est-ce qui se
passe,
Boris? C'est
mort
de rire.
Non, il a l'air d'aimer Océane Rosemary.
Je suis allé voir le spectacle et c'était formidable.
Il y a Chaton violent?
Non, celui-là.
Ah,
celui
la lesbienne invisible.
La lesbienne invisible,
ouais.
C'est génial.
Incroyable.
Oui, oui.
Qui était son spectacle précédent, effectivement. Et là, Chaton violent, c'est son dernier spectacle et il sera vu de façon un peu inédite.
Le titre est intriguant, déjà.
Et puis l'affiche aussi. Elle est très belle et on ne sait pas trop ce que c'est ça qui est intéressant. Et on est content en fait parce qu'on l'avait reçu justement pour la lesbienne invisible il y a 5 ans, lors d'un festival précédent. Et donc on est super content de la recevoir à nouveau pour un spectacle qui commence à sacrément cartonner aussi à Paris, puisqu'ils ont changé de salle, ils ont pris une salle plus grande. Je crois qu'il y a eu des personnes refusées au festival d'Avignon. Et on est d'autant plus content que c'est l'unique représentation en Rhône-Alpes.
Ah oui.
Vraiment se ruer dessus.
Oui.
Ah oui. A priori, en tout cas pour l'instant, qu'à Saint-Étienne.
Oui, parce que vous avez toutes les années, les spectacles vivants sont souvent des inédits qu'on ne voit pas en dehors de Paris et qui tournent un petit peu. Mais par exemple, je pense à une pièce comédie musicale, et si j'en parle, c'est parce qu'on va en reparler tout à l'heure. C'est Sona, vous aviez, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, non, c'est plus vieux, c'était en 2011, il me semble. Vous aviez eu la pièce comédie musicale Sona qui était jouée à l'époque au Théâtre Clavel à Paris, et ça nous a donné l'occasion de pouvoir revoir cette œuvre au festival Face à Face. Je voulais signaler aussi que quelque chose, Didier Rodbétony va venir vous voir puisqu'il va animer une conférence. Didier Rodbétony,
l'excellent Didier Rodbétony,
qui a un pote, on le connaît bien, on l'embrasse aussi. Et donc en fait il va venir présenter une véritable curiosité cinématographique, un film. Alors ça, pour le coup, c'est pas un film récent, c'est un film de 1952, si je me trompe pas.
51, je crois.
51, avec, enfin, qui s'appelle Olivia, qui est un film avec Edwige Feuillère, et qui a été réalisé donc par Jacqueline Audry. Oui. Et ça, c'est une curiosité cinéphile, dirons.
Alors moi je suis comme vous. J'adore le cinéma. Je connaissais pas ni Jacqueline Audry ni ce film en particulier. Je suis d'une part très content que le film classique qu'on puisse proposer cette année soit un film qui traite, qui parle de filles et pas un film soit gay, soit à tendance gay les années précédentes. Donc ça, déjà, je suis très content. Et je suis super curieux et super excité à l'idée de le voir.
Mais oui, c'est une véritable curiosité, de toute façon, ce film. Oui. Olivia, que je ne connais pas non plus, évidemment, je ne pourrais en parler, mais j'ai un petit peu fait des recherches comme ça sur Internet, et c'est comme un ovni. Quoi.
Mais Audrey fait partie de nombreuses cinéastes réalisatrices qui restent dans l'ombre et dont on ne parle jamais.
Mais qui a une sacrée, j'ai vu effectivement qu'il y a plutôt une bonne cote aux États-Unis. Je crois, elle est quand même bien repérée comme une metteuse en scène, comment dire, à suivre, qu'il faut garder en mémoire dans sa vidéothèque, sa cinémathèque.
Bon, ben en tout cas, donc je rappelle, c'est du 19 au 22 novembre, le festival Face à Face à Saint-Étienne. Je sais que des livrets, des programmes, des plaquettes sont diffusés, mais si on voulait en connaître plus sur les horaires, etc., les jours de diffusion des films, on peut aussi trouver ça sur Internet, je suppose.
Alors, sur Internet, sur notre site www.festivalfaceafface.fr et sur notre page Facebook, vous pouvez en savoir plus parce que vous avez en plus les teasers, les bandes annonces de tous les films en compétition, oui, puisqu'il y a un prix du public, et également tous les synopsis des courts-métrages que vous ne trouvez pas sur notre programme. Et les horaires sont absolument indiqués également en gros, en large et en travers sur le site internet.
Bon, de toute façon, moi, je mettrai tout.
On retransmet les infos.
Voilà, on transmettra publiera toutes les infos sur les sites de l'émission, pluriel gay.fr, et puis la page Facebook de l'émission. Et puis, pour finir, donc, je dirais qu'il y a un lauréat, c'est ça ? Il y a quelqu'un, un film, une œuvre qui va être couronnée.
Oui.
D'accord. Bah, c'est bien.
Hein,
oui, oui. Oui. Non, mais je veux dire...
Il y a un Danois l'an dernier.
Ouais.
Qui avait tout raflé.
Qui avait eu 3 prix. Et
aussi bien public que jury, donc c'est bien d'avoir un concours.
Ouais. Vénézuélien pour les longs.
Ouais, parce que je suis un peu surpris parce que bon, j'avais vu pour la cour la nuit du cours, mais je ne savais pas que les longs métrages aussi faisaient l'objet d'une d'une sélection.
Et le long qui a été pris l'année dernière qui s'appelait Assoul, qui s'appelle en français maintenant Pas si rose, a du coup après trouvé un distributeur vidéo en France.
Voilà, d'accord.
Il est pas sorti en salle, mais il est chez Optimal côté vidéo.
Bon, ben merci Martial et Olivier du festival Face à Face.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir
merci
accepté notre invitation. Bon festival.
Merci.
On mettra toutes les infos que vous avez déjà données sur nos sites.
Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir. Alors, ma petite Lolo, tu as peut-être lu le mensuel hétéroclite numéro 105 de ce mois de novembre. Il est consacré au festival aussi. Enfin, pas au festival,
mais à Saint-Étienne.
À Saint-Étienne en général. Et notamment, il y a une interview très intéressante de Philippe Léonard, qui est le directeur de la Cinémathèque de Saint-Étienne. Mmh. Et qui, il faut le savoir, et on ne le dit pas assez, est la plus ancienne cinémathèque de France, puisqu'elle a été créée en 1922. Voilà, il fallait qu'on se le dise. Il y a aussi des articles sur la scène LGBT stéphanoise. Je vais t'interdire de sourire parce que tout le monde à Lyon sourit quand on parle de la scène LGBT stéphanoise. Eh bien, il y en a une. Il faut lire Hétéroclite pour le savoir. Et
j'ai rien dit, moi, tu me fais passer pour...
Non, mais en général, c'est à Lyon, comme on est, on est un petit peu... Oh, Saint-Étienne, il n'y a rien. Mais si, c'est au niveau LGBT, souvent, bah, tu sais, il y a la rivalité entre les deux villes, déjà. On n'a pas parlé à nos invités.
Moi, je ne m'engage pas dans ce conflit.
Oui, oui. On n'a pas parlé du résultat du derby de dimanche soir.
Non, parlons pas. De quoi ? Il essaye encore de nous parler foot. Non. Chaque émission, n'y coupe pas, il nous parle du foot.
Voilà, exactement. Donc, en dehors de ça, il faut savoir que si on lit... si on lit Hétéroclite, on se rend compte que tous nos préjugés sont faux.
Hein, mais tu es le seul à en avoir.
Ah, tu crois? Je ne suis pas sûr dans le domaine. Mais notamment en ce qui concerne, bah, déjà le festival Face à Face est là pour prouver que c'est une ville très dynamique sur le plan LGBT, mais aussi en lisant Hétéroclite, on se rend compte, certes l'offre commerciale est limitée, mais c'est compensé par la chaleur de ces soirées. Je ne sais pas ce que Hétéroclite entend par là. Et par un réseau associatif dense et dynamique.
On a l'impression que le rédacteur de l'article a dû tester les soirées stéphanoises.
Oui, certainement. Ouais. Qui les a écrites, peut-être Romain lui-même d'ailleurs. Ah, les a peut-être testées.
Je ne sais pas.
Prochaine fois qu'on le verra, on lui demandera. Alors, je parlais de la comédie musicale Sonat tout à l'heure. Il se trouve que, donc, comme on le disait, chaque année, il y a du spectacle vivant aussi dans le cadre du festival Face à Face à Saint-Étienne. Et une année, c'était donc en 2011, je crois, une comédie musicale gay, donc, qui s'appelle Sonat, qui en fait est la transcription française d'une comédie musicale américaine, qui a été donc montée, comme je disais, au théâtre Clavel à Paris, qui a connu un franc succès, je dirais, en région parisienne, qui a un petit peu tourné en dehors du périphérique parisien et s'est retrouvé donc en Rhône-Alpes en exclusivité dans le festival à Saint-Étienne. Et pourquoi j'en parle? Parce que tu sais qu'on a une petite thématique récurrente là comme ça qui traîne sur les comédies musicales gay depuis quelques temps. Et on va écouter un extrait de cette comédie musicale donc qui s'appelle Sona. Donc on l'a compris, ça se passe dans un sauna, n'est-ce pas Bernard? Ce n'est pas du théâtre pornographique, Bernard, je suis désolé de te le dire. Et en fait, c'est plutôt une comédie assez ludique sur les vicissitudes des clients de ce sauna, et notamment d'un en particulier, où tous ces problèmes se cristallisent autour de ce lieu, dans ce lieu magique de vapeur et de sueur torride. Voilà, donc...
Il sait de quoi il parle.
En tout cas, c'était monté à Saint-Étienne en 2011, et c'est la seule fois où on a pu le voir en Rhône-Alpes, grâce au festival Face à Face. On va écouter absolument, c'est un titre maintenant, donc tout de suite, qui s'appelle La Vapeur, tout simplement.
Bah, très bien.
Envoyez la vapeur, Bernardo. We'll be right back. Voilà, de retour sur Pluriel Gay. Alors, avec Sébastien Char, normalement, s'il est là. Sébastien, oui, il est là. Ça va, Sébastien?
Ça va bien, vous? Très bien.
Ça va. Donc, on te connaît déjà bien à l'émission, parce que tu as déjà participé en direct avec nous à des émissions, donc, concernant des sujets traités par la CIMADE. Alors, la CIMADE, on rappelle rapidement ce que c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc, c'est, la CIMADE s'occupe, en fait, du droit des étrangers en France, et en leur apportant soutien, conseil, aide juridique. Hein, donc pour les réfugiés, pour les migrants, et la CIMADE est habilitée aussi pour intervenir notamment dans les centres de rétention de la République française. Est-ce que j'ai tout juste pour l'instant ?
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc toi, Sébastien, la CIMADE, tu es salarié de la CIMADE, je crois.
Non, moi je suis bénévole. Alors je suis membre du bureau local de Lyon. Je suis salarié à Forum Réfugiés qui travaille aussi dans les centres de rétention.
Voilà, j'ai confondu entre la CIMADE et le Forum des Réfugiés. Très bien. Donc, bénévole à la CIMADE, et en fait, si je t'ai demandé d'intervenir ce soir à l'émission, de participer, c'est parce que c'est en rapport avec un événement qui lui aussi date depuis quelques années. Toutes les années revient le festival Migrants Scène. Alors, festival Migrants Scène, c'est un festival national, ma petite Laurence. Ça se passe dans plusieurs villes en France, dans de très nombreuses villes en France, et depuis 5 ans, et ça existe depuis 15 ans je crois, si mes renseignements sont bons, et depuis 5 ans l'agglomération de Lyon accueille aussi les événements du festival. Donc c'est un festival qui propose des événements artistiques, photographiques, peinture, cinéma, spectacle vivant, etc. Et c'est tout autour de la question des réfugiés et des migrants. Alors Sébastien, je voulais savoir, alors il faut savoir aussi que lundi, si tu as écouté Radio Pluriel lundi soir à 19h dans l'émission Miroir, nous avions donc deux coordinatrices du festival qui étaient là, qui ont présenté le festival Migrants Scène. Mais toi Sébastien, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a motivé la CIMADE, à ton avis, à créer ce festival, quoi? Pourquoi un festival autour de la question des réfugiés et des migrants en France?
Alors c'est le festival Migrants Scène, oui, c'est une histoire qui est déjà un petit peu ancienne, parce que ça a commencé à Toulouse. Au départ, hein, c'est l'équipe de Toulouse de la CIMADE qui a mis ça pour se dire il faut sensibiliser, il faut trouver un moyen d'apporter au public un petit peu le combat de la CIMADE, ses missions, ses engagements, et puis de faire connaître à travers la culture, à travers l'art, à travers des pièces de théâtre, des expositions photos, des rencontres sur effectivement les parcours migratoires, sur ce que vivent les migrants, ces personnes en quittant leur pays, en faisant des longs voyages, souvent au péril de leur vie, souvent en étant victimes d'agressions au cours de ces voyages, et puis leur arrivée en France, la difficulté à avoir des papiers, la difficulté de leur vie au quotidien, parfois sans logement, sans travail. Voilà, la difficulté de l'intégration de manière générale, et voilà, il y aurait ce qui peut se faire au coup par coup par des campagnes politiques, par l'interpellation des députés ou des sénateurs quand il y a des nouvelles lois. L'idée c'était de montrer ça au grand public, et bien par la culture, par du théâtre, par du cinéma. Et c'est quelque chose qui marche beaucoup, hein, et y a plus de 4000 bénévoles aujourd'hui sur le festival Migrants Scène, au plan national. Il y a 45 villes, et il y a même y a quelque chose à Rabat, hein, par l'intermédiaire d'une autre association qui a un partenariat avec la CIMADE. Donc c'est clairement une grande messe pour la CIMADE.
Donc au Maroc aussi, c'est carrément, vous avez quelque chose là. Alors c'est 4000 bénévoles, c'est ça que tu nous as dit, c'est énorme. De toute façon, Migrants Scène, c'est énorme. Hein,
sur combien de villes?
45
villes. Voilà, donc après c'est chaque groupe local, hein, fait un petit peu sa programmation avec ses commissions en fonction des lieux culturels et puis des liens qu'ils ont sur place. C'est vrai qu'à Lyon c'est assez riche, hein, parce que bien évidemment il y a beaucoup de lieux culturels à Lyon. Il y a une histoire aussi de la CIMADE qui est très importante. Donc c'est vrai qu'on a une dizaine de lieux, on a plus d'une dizaine de manifestations entre le 14 novembre et le 30 novembre. Donc il y a vraiment beaucoup de choses vraiment beaucoup de choses à voir.
Et donc, le festival Migrants Scène cherche à attirer à lui un public qui serait intéressé donc par la problématique des réfugiés et des migrants dans un cadre différent de celui dont on parle habituellement, c'est-à-dire à travers les médias, à travers aussi, c'est peut-être une façon, enfin j'imagine que c'est le cas, tu vas me le confirmer, c'est pour déjouer peut-être des préjugés, la peur, les égoïsmes des sociétés occidentales. Donc Migrants Scène, je suppose, cherche à s'adresser au public le plus large, y compris un public qui ne serait pas informé correctement, je dirais, sur la réalité de la migration, des réfugiés, etc., etc. Est-ce que Migrants Scène arrive à toucher, donc, à agrandir le panel de son public d'année en année et de toucher des gens, finalement, par rapport à cette problématique, d'être différent de ce qu'on entend habituellement ? Est-ce que ça marche, tout simplement ?
Oui. Oui. Ah oui, je pense que Migrants Scène est vraiment, en tout cas sur Lyon, hein, pour connaître un petit peu mieux. C'est vraiment un festival qui grandit, qui chaque année a de plus en plus et de manifestations et de personnes qui viennent. Le public est de plus en plus important et effectivement sort hein, de ce qui est effectivement l'objectif, d'aller vraiment vers des personnes qui, au premier abord, dans leur vie privée, de manière associative ou même dans leur milieu professionnel, ne sont pas touchées par ces questions d'émigration, par le parcours des migrants. Que ces personnes viennent, puissent effectivement prendre connaissance de la réalité du parcours de ces personnes. Effectivement, il y a tout un travail de déconstruction des préjugés qui sont souvent véhiculés par les médias, d'autant plus dans l'actualité. C'est vraiment quelque chose qui marche. Et je pense que la CIMAD peut être très fière de ce travail parce que c'est unique, hein,
Oui.
En tant qu'événement, c'est unique.
Oui, rappelons, 15 ans d'existence déjà, un succès grandissant. Ouais. Ça doit être difficile aussi pour les organisateurs. Déjà, l'organisation d'un ensemble doit être difficile, mais en plus, doit être difficile de pouvoir proposer à un public large sur cette thématique différents événements qui regroupent toutes les disciplines artistiques, finalement, sans donner l'impression aux gens qu'on pointe un peu du doigt, qu'on leur dit, voyez, vous êtes, vous, des privilégiés et vous ne comprenez pas ce qui se passe chez les réfugiés. Il faut sauter de ce côté culpabilisateur qu'on pourrait avoir tendance à avoir dans ce genre de festival en disant « Regardez la réalité en face, vous êtes égoïste, mais regardez ce qui se passe. » Je veux dire, c'est difficile ça, non ? Je pense que c'est difficile de proposer des spectacles sur ce thème sans culpabiliser les spectateurs en même temps, tout simplement.
Oui, je pense que ça c'est un gros travail de la commission et des bénévoles, hein, effectivement, de la CIMAD, parce que c'est uniquement des bénévoles qui organisent le festival, effectivement pas géré par les salariés, même si au niveau national il y a une certaine coordination qui est faite. De trouver effectivement les artistes qui vont proposer effectivement des projets qui ne sont pas dans un discours effectivement culpabilisateur en disant vous êtes riche, vous êtes privilégié et vous êtes aveugle, voire égoïste par rapport à la situation de ces personnes, mais vraiment d'élever un petit peu le débat, d'aller réfléchir, hein, par exemple le 17, hein, c'est l'ouverture, même si c'est pas la première date, c'est un peu l'ouverture du festival. Il y a toute une réflexion sur la protection des réfugiés, l'Europe en mal de solidarité. Donc là, on aura notamment le président régional de la CIMAD qui va intervenir, mais également une personne d'Amnesty International. Pour dire voilà, quelles sont les politiques de l'Union européenne, quels sont les choix qui sont décidés, quels sont les enjeux, et ne pas être bien évidemment dans du cliché. L'idée, c'est de déconstruire des préjugés, c'est pas d'en créer d'autres avec un discours qui serait effectivement culpabilisateur.
Oui. Alors, chaque année, un thème particulier est privilégié. Et cette année, le thème, c'est donc sur les pas des personnes réfugiées. Alors, je sais qu'une année, vous avez eu un thème sur les femmes, un autre thème sur la mère, tout simplement. La mère qui porte les espoirs des réfugiés, mais aussi qui est porteuse de mort, finalement, puisqu'on sait très bien que des milliers de personnes trouvent la mort en voulant atteindre les rivages de l'Europe. Et cette année, le thème, donc, c'est sur les pas des personnes réfugiées. Et j'ai également vu qu'il y avait, notamment, ce qui m'a fortement intéressé, parmi d'autres choses, il y avait notamment un jeu de loi qui allait être... Enfin, qu'il y allait avoir un jeu baptisé Dans les pas des réfugiés, qui se base sur le jeu de loi, qui est donc un jeu participatif où tout le monde pourra participer sur justement la migration et le parcours migratoire, donc des personnes réfugiées, des migrants. Donc sur les pas des personnes réfugiées, là c'est vaste quand même comme sujet, puis ça part du départ finalement jusqu'à l'arrivée. Alors comment c'est choisi cette thématique d'une année à une autre? Est-ce que c'est les événements aussi qui poussent les bénévoles et les salariés à choisir des thématiques particulières? Comment ça se passe?
Oui, ben, les événements jouent. Alors c'est vrai que pour le thème des réfugiés, là on peut difficilement dire que c'est l'actualité parce que les thèmes sont quand même choisis plus d'une année avant. Donc on était avant l'actualité de ces derniers mois avec les arrivées des Syriens et puis tout ce qui s'est passé encore cet été avec l'Érythrée ou ce qui se passe toujours avec le Soudan. Mais c'est vrai que là du coup cette année le thème tombe pleinement dans alors que des fois on est un petit peu plus sur des logiques de fond. L'année dernière c'était l'Europe par exemple. Et donc c'est vrai que là cette année ça va à mon avis peut-être attirer d'autant plus de personnes et ça va permettre de faire d'autant plus de sensibilisation que l'actualité est criante sur le thème des réfugiés. Alors sur le jeu, oui, tu me disais dans les pas des réfugiés, alors c'est Forum Réfugiés, hein, qui propose ce jeu.
Ouais.
Donc si j'ai bien vu, c'est la bibliothèque municipale de la Pardieu le jeudi 26. Alors moi j'ai eu l'occasion de le faire ce jeu, hein, parce que la forme réfugiée on le teste entre guillemets un petit peu et c'est un jeu qui est extrêmement complet. Je pense pour quelqu'un qui effectivement n'a aucune idée de ce que peut être le parcours d'un réfugié, c'est une très très bonne expérience, c'est concret. On est là, on nous donne un petit peu le personnage en fait. On a une carte personnage et on est dans la peau de ce migrant. Qui va devenir demandeur d'asile et qui peut-être reviendra réfugié. Puis voilà, au fur et à mesure, on a toutes les ombres qui se présentent, le passage des frontières, le paiement des passeurs, voilà. Et puis certaines personnes y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Et ça montre bien effectivement toute la difficulté, toutes les barrières, toutes les impasses que peuvent rencontrer ces personnes dans leur parcours et dans leur volonté d'obtenir une protection en Europe. Ce qui n'est pas toujours possible au final.
Alors c'est vrai que dans tous les événements qui sont proposés dans le cadre du festival, donc qui va commencer là le 14 novembre, c'est une palette extrêmement large. Alors donc sur Lyon, essentiellement trois villes hein, qui participent. Donc dans la métropole de Lyon, c'est Lyon, Vaux-en-Velin et Villeurbanne. Hein. Et il y a aussi en Rhône-Alpes d'ailleurs d'autres villes. Hein, il y a Valence, Romans, j'ai vu aussi qui avaient des actualités liées donc au festival. Et puis Grenoble également. Mais il y a des tas de trucs, hein, c'est vraiment, il y en a vraiment, il y a un large panel, il y a vraiment de quoi faire. Ça rejoint tous les genres artistiques. Alors j'ai vu que la soirée le festival à Lyon commençait par une boom. Tu te rappelles les booms quand on était jeune? Enfin, oui. Moi surtout, j'allais en boom. Oui. Là, c'est une boom internationale avec donc des playlists qui vont être proposées par des intervenants du monde entier. Et bon, il y a des tas de choses comme ça. Il y a du théâtre, de la musique, il y a des conférences. Donc effectivement, comme tu disais, avec Amnesty International, le Forum des réfugiés, il y a du théâtre pour jeunes publics aussi. Il y a des séances de cinéma au Zola, au Centre Social des États-Unis, j'ai vu, et chez nos amis du Lavoir Public qu'on connaît bien aussi ici, voilà. Le 18 novembre d'ailleurs, il y a une soirée cinéma, une soirée donc de court-métrage avec une fiction de documentaire, j'ai vu. Voilà, donc c'est très très riche, c'est ce que je veux dire, c'est deux semaines très riches.
Le but, c'est est-ce qu'il y a quand même la volonté de montrer un peu la... Fin, c'est... peut-être paraître bizarre ce que je veux dire, mais la situation des migrants avec un peu plus de légèreté, en fait, essayer de faire passer le message. On parlait tout à l'heure d'éviter de culpabiliser les spectateurs, mais est-ce que c'est important quand même de rester dans un climat convivial et de traiter les choses avec légèreté? Tu disais, Gérald, il y avait du théâtre pour enfants. Je suppose que ça reste quand même quelque chose de léger. C'est important, ça, durant le festival?
C'est important de pouvoir effectivement toucher tous les publics et notamment les enfants parce que la CIMAD peut faire des interventions en milieu scolaire aussi hein, tout au cours de l'année et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment que le festival puisse s'ouvrir au plus grand nombre, y compris aux enfants, parce que il faut, c'est quand on est tout petit qu'on apprend. Après, sur la légèreté, je dirais pas légèreté, parce qu'il y a un cours de vérité qui n'est pas léger, mais bien évidemment, l'idée, c'est d'avoir des moments conviviaux. C'est aussi pour les bénévoles un petit peu de bon temps et pouvoir se sortir d'un quotidien qui n'est pas toujours facile.
Ouais.
Et le regarder un peu différemment.
Alors Sébastien, parallèlement au festival Migre en Scène, j'ai profité de t'avoir au téléphone pour demander quelques nouvelles. En fait, tu es venu, je l'ai dit, à l'émission deux fois, une fois pour parler pour évoquer dans le cadre du 1er décembre les réfugiés, enfin les personnes expulsées, les malades du SIDA par exemple, notamment, qui sont expulsés de France malgré leur statut sérologique. Et puis aussi, on a fait une émission complète consacrée donc aux réfugiés pour raisons d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle. Or, tu m'as envoyé un petit message un peu en disant que le ministère de l'Intérieur avait habilité 3 associations LGBT dans le cadre donc de la participation aux entretiens avec l'OFPRA. Alors l'OFPRA, rappelle-nous vite ce que c'est, parce que encore une fois, peut-être que tout le monde ne connaît pas l'OFPRA. C'est un organisme avec lequel vous travaillez, évidemment.
Alors l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Donc c'est l'administration qui en charge l'examen des demandes d'asile en France et la délivrance, le cas échéant, du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire pour les personnes qui font une demande d'asile.
Et qui est donc sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, désormais.
Qui est une administration du ministère de l'Intérieur, tout à fait.
D'accord. Et donc le ministère de l'Intérieur, comme je le disais, a habilité 3 associations LGBT, donc dans le cadre donc du travail avec l'OFPRA. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise en compte de la thématique des réfugiés, comme on disait tout à l'heure, pour raison d'orientation ou d'identité sexuelle par le ministère de l'Intérieur ?
Il y a une volonté, d'une part, du législateur, parce que quand la nouvelle loi sur l'asile a été adoptée là, le 29 juillet, la question des associations qui pouvaient demander une habilitation pour participer à l'entretien de l'OFPRA, donc entretien qui à l'origine n'était qu'entre l'officier de l'OFPRA, l'officier de protection, et l'interprète et le demandeur d'asile. Donc il n'y avait personne extérieur et la loi permet la présence des associations mais également des avocats. Et l'article de loi qui prévoit cette participation des associations écrit noir sur blanc que peuvent y participer les personnes qui défendent les personnes victimes de persécution sur leur orientation sexuelle. Et donc, dans la loi, il y a déjà une consécration de cette réalité-là. Et après, effectivement, il y a 3 associations sur 7, donc ce qui est quand même pas mal. Sachant que dans les 7, hein, il y a la CIMAD, il y a Forum Réfugiés, il y a France Terre d'Asile, il y a l'ANAFE pour les 4 autres, qui sont quand même des associations nationales en défense du droit des étrangers et du droit d'asile. Donc il y a un certain équilibre effectivement qui s'est trouvé entre défense des demandeurs d'asile et puis cette spécificité sur la question des persécutions liées à l'orientation sexuelle. Je pense qu'oui, le législateur a voulu mettre ça en avant, hein, je pense qu'il y a une réalité pour qu'il y ait plus de protection. Et la question aussi de la, puisque la loi prévoit aussi maintenant diagnostiquer la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Donc même si là, de nouveau, c'est le ministère de l'Intérieur qui est en place. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant, parce que c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui est au premier plan. Mais l'Office français d'intégration de l'immigration, l'OFI, qui va maintenant être en première place pour gérer les demandeurs d'asile, va lui aussi pouvoir faire des diagnostics sur la vulnérabilité des personnes. Parmi les personnes vulnérables, bien évidemment, il y a les personnes qui fuient des persécutions liées à l'orientation sexuelle et qui donc pourront bénéficier d'une prise en charge particulière tout au long de leur demande d'asile.
D'accord. Alors, est-ce que cette nouvelle habilitation, donc, c'est en lien, peut être mise en lien avec la nouvelle loi, parce qu'une loi de réformant le droit d'asile a été votée au Parlement en juillet, je crois, promulguée à fin juillet. Cette loi qui vise normalement à renforcer la protection des personnes réfugiées, des demandeurs d'asile. Est-ce que c'est en lien avec cette loi, cette réforme, ou ça n'a rien à voir?
Non, non, c'est mis en place, hein, c'est cette nouvelle loi, hein, qui met en place cette participation des associations.
Ouais.
Et c'est vraiment pour l'OFPRA, c'est un bouleversement, hein, puisque c'est la première fois qu'on a des acteurs de la société civile qui peuvent intervenir lors des entretiens. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en faire un depuis l'entrée en vigueur de la loi. Et c'est vrai que c'est un monde, hein, qui était totalement extérieur. L'association suit le demandeur d'asile avant, elle suit le demandeur d'asile après, mais il y avait toujours cet instant au final qui est le plus important, où ben, l'association n'était pas là. Et voilà, c'est effectivement alors, toute chose gardée. Hein, l'association est là en observation, elle peut faire à la fin de l'entretien quelques remarques sur le déroulé de l'entretien. Bien évidemment, l'association n'a pas d'influence sur la prise de décision, mais c'est une avancée. Hein. Je pense qu'il y a, globalement, c'est une loi qui est contrastée parce qu'il y a, quand même il y a une logique d'efficacité du système de l'asile en France. Hein. C'est surtout ça qui portait cette nouvelle loi. C'est-à-dire, voilà, de plus en plus de demandes d'asile, il faut que le système soit plus rapide, plus efficace. On met en place du juge unique. On réduit les délais d'instruction des dossiers. Et il y a quand même quelques avancées, et ça, je pense que ça fait partie de ces avancées et des points forts de cette loi.
D'accord. Il y a aussi, je crois, une prise en compte accrue des demandes d'asile concernant donc des femmes qui subissent des violences, qu'elles soient légales ou non, dans leur pays d'origine. Hein, j'ai vu ça. Il y avait aussi le renforcement de la prise en compte de la demande d'asile pour des femmes qui subissent des discriminations graves dans leur pays d'origine, quoi.
Donc,
on peut dire que dans l'ensemble, c'est une loi qui améliore un petit peu le statut, enfin du moins le droit d'asile tel qu'il est pratiqué en France, tel qu'il est étudié en France, pris en compte.
Il y a de réelles avancées sur cette loi. La plupart sont guidées par les directives européennes. Il y a effectivement
de réelles avancées. C'est vrai, j'ai vu cette loi, en fait, c'est la mise en application de directives européennes, en fait. Hein. C'est pour intégrer dans le système de législatif français des directives venant de l'Europe.
Tout à fait, effectivement.
Bien, Sébastien, en tout cas, je te remercie d'avoir participé avec nous à l'émission. Je rappelle que le festival Migrants Scène, c'est du 14 au 30 novembre, que je mettrai aussi sur le site internet de l'émission et sur la page Facebook, tous les renseignements. Ouais. Alors, on peut avoir le programme, notamment le programme Rhône-Alpes.
Voilà, migrantscène.fr et sur le site de la CIMAT de Lyon, il y a le programme Rhône-Alpes. Voilà, moi, j'aurais un dernier petit coup de cœur pour l'exposition qui va être à la bibliothèque municipale du 7e Jean Massé,
oui,
sur Calais, hein, parce que c'est une exposition de photos, hein, sur tout ce qui se passe à Calais. Il y a un photographe, Julien Cesson, là, pendant 2 ans, qui a suivi les migrants à Calais. C'est une très très belle expo.
Ouais. Et ça, c'est à la bibliothèque municipale à Jean Massé.
Ouais, Jean Massé.
D'accord, très bien. Bon, merci Sébastien, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et à la prochaine pour d'autres informations concernant donc les réfugiés, et notamment pour ce qui concerne les malades du sida et les réfugiés pour raison d'homosexualité, d'orientation, d'identité sexuelle. Merci Sébastien.
Merci.
À très bientôt. Bonne soirée.
À bientôt.
Au revoir. Donc, je rappelle aussi que Radio Pluriel est partenaire du festival Migrants Scène, ma petite Lolo. Hein, voilà. Donc,
parfait.
Voilà, c'est vraiment très riche. Mm. Festival très riche, très intéressant. Alors, ça n'a rien à voir avec, avec la sauce, là, tu vois. Mais j'ai une auditrice fidèle qui m'a envoyé un petit message en disant, parce qu'on a parlé des comédies musicales gays, elle m'a dit, non, il y a une comédie musicale lesbienne. Ah. On a dit que ça n'existait pas. Eh ben, si, ça existe.
Mais après, Gilles a dit que ça existait.
Oui, Gilles aussi a fait des recherches, a dit que ça existait. Il y en a une qui a gagné 5 Tony Awards cette année. Mais on n'en dira pas plus parce qu'on passera on essaiera de passer des morceaux. Non, mais il faut garder le suspense pour la suite. On va pas dire ce que c'est, etc.
Oui, hein,
exactement. Bah, oui. Mais enfin, une grande comédie lesbienne, lolo, de filles avec des femmes, non? Ben bon, on se plaignait qu'il y en a. Enfin, tu te plaignais qu'il n'y en avait pas, non? Non, tu te plaignais peut-être pas d'ailleurs.
Mamma Mia? C'est pas ça?
Non, d'ailleurs, tu ne te plaignais même pas, tu t'en avais même rien à faire qui est pas.
Non, je m'en foutais pas, mais ouais. Je. Non, mais je serais ravie de voir ça, moi, il n'y a pas de problème.
Bon, on en reparlera à l'occasion.
Tu me fais passer pour ce soir, mais c'est fou.
Donc, en tout cas. Bon, en tout cas.
Je suis fatiguée.
En tout cas, on en reparlera de cette comédie musicale lesbienne.
Parfait, j'espère bien.
Voilà. Et on va se quitter donc sur une chanson.
Quittons-nous.
Alors, une musique que tu nous as amenée.
Oui.
Alors, c'est quoi?
C'est la famille Chédid.
D'accord.
Alors, il y a Louis, il y a Mathieu, il y a Joseph et il y a Anna. Donc, ils ont monté un petit quatuor là depuis le printemps, je crois, début d'année. Et donc, c'est une chanson qui s'appelle Fort. Alors, c'est F-O-R-T, en fait. C'est le feu, l'eau, l'air et la terre. Et je la trouve sympa, cette chanson.
Ouais.
Elle est toute nouvelle, c'est sympathique.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, on va écouter ça à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, nous ne serons pas là physiquement.
Mmh.
Voilà, il y aura une émission.
Par la pensée, peut-être.
Oui, certainement même. Hein. Mais on aura quand même, il y aura quand même un programme pluriel gay la semaine prochaine, malgré tout. Voilà, eh bien, c'est parti. Nous allons écouter la chanson.
Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Ok. Let's go.
Si j'étais le feu, je serais l'eau, je serais l'air, moi la terre.
Au-delà du jeu,
du jeu de l'ego,
la vie à l'envers,
la lumière.
La seule caravane où bouillonne la vie, où certains mélodrames deviennent mélodies. Pourquoi cette tribu, musique à l'organe?
Sur la terre, suis cette voix qui t'appelle. Lui, c'est la force. Si je croise ton regard,
si tu croises mon regard,
renvoie la vague
et que je renvoie la vague,
et même si le vent se lève aux vagues,
et même si l'univers se lève aux vagues à l'universel. Si j'étais le feu,
je serais l'eau,
je serais l'air,
moi la terre.
Au-delà du jeu,
du jeu de l'ego,
la vie à l'envers,
la je serai l'eau,
je serai l'eau,
je serai l'eau, moi la terre.
Au-delà du jeu,
au-delà du jeu,
du jeu de l'ego,
du jeu de l'ego, la vie à l'envers,
la lumière.
L'union fait la force, quand la vie me perd, j'entends ta voix qui m'appelle. Sous l'eau, sous l'écorce, partout sur la terre, suis cette voix qui t'appelle.